Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on parle du meilleur sujet du monde, comment donner le goût de la lecture aux enfants. Alors on le sait, nos enfants, nos ados sont beaucoup, sont trop devant les écrans. Alors vous les entendez, les plus pessimistes d'entre nous, les enfants ne lisent plus, les ados ne lisent plus, ils ne sont plus que sur TikTok, etc. etc. Alors est-ce vrai? Eh bien non, on va en parler, vous allez voir, mais surtout on va tenter de vous donner des tips pour parler en bon français, pour accompagner vos enfants dès le plus jeune âge vers ce qui est sans doute l'un des plus beaux plaisirs de la vie, se plonger dans un bon bouquin. Du rituel du soir avec vos petits, vos BD à Harry Potter en passant par justement les mangas. On n'a pas le droit de dire qu'un enfant n'aime pas lire, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le livre qui lui convient. Un bon sujet, je vous l'avais dit. Bonjour à tous et bienvenue dans Apostrophe. Et pour parler de ce sujet, un plateau 5 étoiles. Lola Séchant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteure, vous êtes illustratrice d'albums et de livres à succès, en particulier pour des tout jeunes lecteurs. On peut citer Une échappée de Bartók Bilóa ou le merveilleux Tout le monde devrait rester tranquille près d'un ruisseau et écouter. Chez Actes Sud, vous allez nous dire notamment comment on raconte une histoire pour des tout petits, mais aussi pour des plus grands.
Je vais essayer parce que je ne me suis jamais posé la question.
Bon, c'est bien, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir. Antoine Doll, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Tan, dois-je vous présenter le papa de Mortel Adèle, notamment l'un des plus gros succès de l'édition jeunesse. Adèle qui vient de fêter ses 10 ans. Un véritable phénomène, rassurez-moi, vous avez déjà réfléchi à notre question ou on va là aussi?
Je vais trouver.
Voilà, vous avez le temps. Le temps que je présente notre troisième invité, vous pouvez réfléchir. Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France Inter, animatrice notamment de l'excellente émission Barbatruc, l'émission de conseil pour les parents, c'est tous les samedis à 15h, en podcast pour ceux qui dorment et font la sieste à 15h, une émission où notamment vous donnez plein de bonnes idées de livres pour les enfants. Le podcast des maternelles, c'est parti. Dorothée Barba, on commence par tordre le cou à une idée reçue, non, les enfants ne lisent pas plus.
Oui, exactement.
J'ai conscience de ma question pourrie.
Ils
mais
ne
c'est
lisent
vrai.
Pas plus, mon cher Benjamin. Non, effectivement,
c'est un lieu commun, une
idée reçue hyper répandue. Et en réalité, quand l'Institut Ipsos récemment s'est penché là-dessus, les enfants lisent toujours. Il y a effectivement les plus gros lecteurs, les plus grosses lectrices, c'est l'école primaire, donc les jeunes enfants. Il y a effectivement un phénomène à l'entrée au collège où l'habitude de lecture a tendance à se perdre un peu. Donc peut-être que le sujet est là, à l'entrée au collège, et comment faire en sorte que ceux et celles qui ont adoré lire en CE2, CM1, continuent
pas
à lire en 6e. Voilà.
Quand on regarde dans le détail, effectivement, c'est les 7-11 ans lisent beaucoup. À l'école, tout est mis en place pour qu'ils lisent. Je crois que la moyenne, c'est 3 heures de lecture par semaine pour les enfants entre 7 et 19 ans. On se réjouit, non? 3 heures par semaine, c'est déjà bien.
3 heures, c'est déjà énorme, c'est super. Enfin, voilà, de toute façon, il faut aussi prendre en compte toute la lecture. Il y a beaucoup de parents qui ont tendance à considérer que lire une BD, c'est pas lire. En 2022, oui, ça arrive encore. J'entends encore ça souvent. Lire un manga, enfin voilà, il faut. Tout est bon à prendre en lecture, et puis voilà, encore une fois, 3 heures, c'est exceptionnel, quoi.
Et encore, ça évolue, parce que quand nous, on était enfants, effectivement, la BD, pour le coup, c'était même pas de la lecture. J'ai l'impression quand même que les choses évoluent grâce à certains, comme je pense à Riyad Satouf, à Johan Sfar, qui ont prouvé aux parents que la BD est de la littérature comme les autres.
Et puis moi, je suis contente de voir dans ma bibliothèque de quartier, le rayon manga prendre enfin une large place. J'ai l'impression que les bibliothèques ont mis un petit moment à réagir, mais là, ça y est. Je vois mon fils de 9 ans, il dévore des mangas et enfin l'offre est à la hauteur de la demande.
C'est Naruto, je crois, qui vient de dépasser les 100 tomes.
Oh, c'est un truc de dingue.
C'est One Piece aussi.
One Piece, ouais. Non, c'est One Piece qui vient de dépasser.
Oui, bien sûr, One Piece, le centième, ouais.
Alors Antoine Doll, les 7-11 ans qui lisent beaucoup, ils lisent notamment Mortel Adèle.
Des fois.
Non, mais pas qu'un peu. Vous devez en parler avec vos lecteurs, et je crois qu'il y en a beaucoup qui lisent d'ailleurs pratiquement que Mortel Adèle. Pour vous, ça doit être hyper gratifiant de vous dire que certains lisent grâce à vous.
Alors, je ne suis pas à ce degré-là d'autosatisfaction.
Si,
mais
on peut y aller. Hein.
Mais je me réjouis surtout que des enfants lisent tout court et qu'ils s'ouvrent à des émotions aussi plus complexes. Mortel Adèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une proposition qui est évidente, puisqu'on est sur du second degré, qu'on est sur du sarcasme, qu'on est aussi sur des notions comme l'affirmation de soi, le non... la remise en cause de la parole de l'adulte. Et je trouve ça intéressant qu'on amène les enfants aussi à des lectures qui sont pas forcément bienveillantes et faciles. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer aussi la littérature. Et je trouve que c'est bien de les amener à s'interroger, à s'emparer d'émotions plus complexes.
Il y en a plein qui lisent rien entre deux parutions de Tom Mortel Adèle. Ouais. Ça, c'est un problème.
Là, ils n'osent pas le dire.
Mais parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que nous, on a beaucoup d'enfants qui viennent nous rencontrer en festival qui nous disent qu'ils lisent pas du tout. Mais ils te disent dans la même phrase, par contre, j'ai lu tous les Mortel Adèle. Et quand t'as lu tous les Mortel Adèle, t'as lu plus de 2000 pages. Et donc, quand on leur dit, mais tu te rends compte que tout bout à bout, t'as lu plus de 2000 pages, d'un coup, on voit dans leurs yeux quelque chose qui s'allume. Et je trouve ça toujours triste, quelque part, que des enfants se considèrent non lecteurs, alors que finalement, ils ont lu ça, et souvent, ils ont relu les tomes plusieurs fois. Et ils se rendent compte seulement là qu'ils sont autorisés à se considérer lecteurs. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez au début sur la conception aussi qu'on se fait de la lecture et des supports de lecture et de ce qu'est une BD, de ce qu'est même un jeu vidéo. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui proposent beaucoup de lecture à l'intérieur et beaucoup d'arc narratif, donc c'est intéressant.
Lola Séchant, quand vous faites vous aussi des salons, des dédicaces, ça doit être déjà être très émouvant, non, de voir tous ces enfants avec vos livres, avec vos œuvres qui repartent avec...
Bah, c'est toujours touchant, surtout de voir les enfants, de les découvrir, parce que quand on dessine, voilà, tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'on se pose la question de comment raconter une histoire à un enfant? Moi, je me pose pas plus la question pour un enfant que pour un adulte, en fait. Je raconte ce dont j'ai envie de parler, instinctivement, et au mieux que je peux le faire. Après, une fois qu'on arrive en salon et qu'on rencontre les lecteurs, c'est là que c'est magique, parce qu'on voit qu'on a quand même travaillé dans notre coin, un peu solitaire, avec notre chat, justement, comme on disait, pendant des mois, des années, et que tout d'un coup, on est face à un enfant. Alors, c'est encore plus touchant quand c'est un enfant qu'un adulte, parce que c'est brut de décoffrage, quoi. Et parfois, ils nous disent des trucs à mourir de rire. Moi, j'ai des enfants, par exemple, qui veulent pas que je dédicace pour leur petit frère ou leur petite sœur sur le même livre, qui font des crises. Alors, je suis obligée de le mettre en PS minuscule, parce que sinon, elle me fait la gueule, la grande sœur.
Il y en a qui veulent pas que vous écriviez sur le livre aussi, genre.
Non, ça va.
Tu vas m'abîmer.
Il y en a qui me disent, est-ce que je peux mettre des couleurs? Parce que quand même, il n'y a pas de couleurs. Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que votre métier est particulier, parce que c'est un travail très solitaire. En fait, c'est le point commun, vous êtes souvent seul chez vous avec vos plans.
Avec vos chats.
Avec nos doutes.
Et quand vous vous retrouvez face à les premiers lecteurs, les premières réactions, ça doit être stressant.
Moi, je trouve pas ça stressant. Je pense que j'ai fait des crises de panique plus souvent en dédicace qu'à d'autres moments dans ma vie. J'ai cru que je mourrais de crise cardiaque 12 fois. Donc, je mens, en fait. C'est un peu stressant, mais c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que c'est le moment où on se rend compte comment est reçu ce qu'on essaye de faire. Et est-ce que ça touche? Et ce qui est touchant aussi quand on fait de l'enfance, de la littérature ou de la BD pour les enfants, c'est qu'on voit les adultes venir offrir ce livre. Et en fait, c'est le plus touchant pour moi, c'est de voir à quel point c'est important pour les adultes de transmettre un livre. Et ça, je me le dis à chaque salon, encore à Angoulême, il y a 2 semaines, de voir à quel point, pour un oncle, une tante, une marraine, ou je sais pas, arriver et dire je vais offrir ce livre à ce petit bébé qui arrive, qui est même pas encore né, ou il y a une vraie transmission qui est presque plus forte vraiment qu'avec la littérature adulte. Ou...
J'ai rencontré récemment un coiffeur, un apprenti coiffeur qui devait avoir 20 ans, et il me disait, fier de lui, qu'il avait jamais lu un livre de sa vie. Et j'ai pas su quoi lui répondre. Dorothée, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire à ce coiffeur?
C'est pas sympa, Benjamin, cette question.
Ça m'a vachement travaillé après.
Tout le monde te regarde, Dorothée.
Il me disait, j'ai pas besoin de ça pour être heureux, etc. Et donc,
mais
j'allais
tant
pas
mieux.
Lui dire, oui, tant mieux, mais d'un autre côté...
Déjà, est-ce qu'on est sûr qu'il dit la vérité? Est-ce que personne lui a jamais lu une histoire? Parce que voilà, il a lu un livre, si quelqu'un lui a lu une histoire un jour. Aidez-moi les autres là.
Ça m'est arrivé aussi. J'ai même une coiffeuse qui m'a dit qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que je faisais de la BD. Elle m'a dit ah bon, c'est un vrai métier ça.
Ouais. Voilà. Ne stigmatisons pas le métier de la coiffure.
Mais... pauvre coiffeur.
Non mais moi, je pense que c'est parce que c'est un lieu où on parle.
Ouais, oui, un lieu bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi où est-ce qu'on trouve l'émotion dont on a besoin. Il y a des gens. Peut-être autour de cette table, nous, on est sensible à la trouver dans la lecture. Il y a aussi des gens qui trouvent l'émotion dans la musique, dans le cinéma, dans les séries télé, dans les rencontres qu'on fait. Et je pense que la lecture, c'est avant tout ça, c'est avant tout des rencontres. Et peut-être que ce coiffeur fait des rencontres de plein d'autres façons.
Et après, il y a plein de gens qui mettent plein de livres dans leur salon juste parce que ça fait chic et qu'ils ne les lisent pas. Donc, est-ce qu'on préfère pas quelqu'un qui assume ne pas lire du tout?
Surtout voilà. Quelqu'un qui dit être heureux, ça fait du bien.
C'est vrai, quand j'étais ado, je laissais traîner Dostoïevski. Enfin, quand j'étais jeune, alors que je l'ai...
Excellent pour draguer, ça.
Ouais. Bon, en fait, non. En vrai, bon...
Mémoire du sous-sol. Ça plaît, bébé?
Ça m'aidait pas beaucoup, je dois bien le reconnaître. Bon, alors, évidemment, dans cet épisode, j'ai envie qu'on entende des jeunes lecteurs, qu'ils nous disent quel est leur rapport avec la lecture, et d'ailleurs, quel est leur livre préféré. On commence avec Ethan. Ethan, il a 9 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 9 ans et demi, et je vais vous parler d'une série de livres qui s'appelle Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Dans ses livres, l'héroïne Sophie Foster découvre qu'elle est une elfe et emménage chez les elfes. Avec ses amis, elle doit découvrir pourquoi elle a été élevée chez les humains et qui sont ses vrais parents. J'aime beaucoup ces livres car je trouve qu'ils sont super drôles et il y a beaucoup de suspense. J'ai hâte de lire la suite de la série qui, avec le tome 9 qui sort en novembre. Je vous recommande cette série car elle est super cool et j'aime beaucoup lire car ça me calme et je me sens loin de tous les problèmes. J'aime surtout lire le soir avant de dormir.
On a tous été Ethan, Antoine, vous disiez encore pendant qu'on l'écoutait. Non, mais c'est vrai, alors c'est bien de dire ça. C'est-à-dire que
oui.
lire fait du bien, et notamment pour les petits coups de blues du quotidien qu'on connaît tous.
Oui, pas que. En fait, il faut savoir que quand on est enfant, ça reste un milieu qui est quand même en circuit très fermé. C'est-à-dire que les seules idées qui rentrent le plus souvent à la maison sont quand même celles de vos parents. Et que la lecture, elle permet de faire rentrer de l'air frais dans tout ça. Et de faire rentrer des idées, de faire rentrer une conscience du monde dans lequel on grandit. Je vois notamment, par exemple, sur la question écologique. Il y a beaucoup de gestes écologiques qui rentrent à la maison parce que les enfants les font rentrer à la maison et parce qu'ils vous disent un jour, ils vous tapent sur la main, ils vous disent arrête de faire couler l'eau quand tu te brosses les dents parce que j'ai lu ça dans un livre, dans un magazine, parce qu'on en a parlé à l'école, etc. Et je pense souvent à ces enfants qui finalement grandissent dans des maisons ou des familles où on fait pas rentrer des idées nouvelles, où on fait pas rentrer des émotions, des choses comme ça. Et effectivement, cet Ethan, il a compris. Il a tout compris que la littérature, elle permet aussi de voyager dans d'autres strates de soi.
Et puis s'apaiser, se faire du bien. Dorothée Barba, pour donner le goût de la lecture aux enfants, il faut aussi que les lectures soient adaptées. Moi, je me souviens, en sixième, on me faisait lire Madame Bovary. Alors, je sais pas si vous avez en tête le détail de Madame Bovary, mais c'est vraiment pas pour 10-11 ans. C'est au contraire une manière de dégoûter de la lecture.
Alors, ouais, c'est compliqué parce qu'il y a aussi cette volonté des enseignants et enseignantes de mettre la barre haut, d'être exigeant, et c'est compliqué le choix de la lecture. Je sais que moi, tous les auteurs et autrices que j'interview, ils supportent pas qu'on donne un âge. Je sais pas si c'est votre cas à tous les deux, mais moi, à chaque fois, je dis, en fin d'émission, merci d'être venu, machin, conseille votre livre, oh, et pas moyen, personne veut donner d'âge.
Aux gens.
Les gens peuvent lire mes livres. C'est difficile, en fait, de choisir. Et après, par contre, quand on a aimé tel bouquin, on aimera tel autre, etc., ça, c'est par effet de contagion, c'est plus simple, mais voilà. Et puis une classe, par définition, une classe, c'est tel niveau hétéroclite que...
Surtout, ça dépend si c'est seul ou accompagné, parce que, justement, le goût de la lecture, moi, c'est venu vraiment par mes parents qui m'ont lu, donc... voilà, il y a des livres qu'on peut découvrir tout seul, mais qui sont pas traversés de la même manière si c'est le parent qui nous le transmet, quoi.
Oui, ce goût de la lecture commence dès la plus petite enfance. Les premiers. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge minimum pour lire des histoires, Lola. Alors, c'est pas vous qui allez dire l'inverse.
Ah non, moi, je pense que j'ai... Enfin, ça... Depuis la naissance, quoi, même au début des images, évidemment seulement. Pas besoin de savoir lire pour regarder un livre, le manipuler, le toucher, c'est charnel aussi un livre. Tous les enfants qui mangent les livres.
Ouais.
D'ailleurs, il y a les bouquins de Lucie Félix, que vous connaissez sans doute, qui est une autrice jeunesse qui fait des livres pour les tout-petits. Et j'aime bien cette idée, notamment il y en a un qui s'appelle Prendre et donner, je crois. Il y a un petit objet qui s'enlève dans une page, il faut tourner la page pour le mettre dans celle d'après. Et ça a l'air de rien, ça, mais ça t'apprend à tourner la page. Et parce que souvent, des trucs qui se déplacent au sein d'un livre, c'est de la page gauche à la page droite. Là, non, il faut tourner. Et l'idée que cet objet, en fait, il faut l'apprivoiser, se l'approprier de la part d'un bébé, quoi, et que l'objet existe, ça, c'est vraiment la meilleure manière d'entrer en lecture, quoi, de sacraliser l'objet, d'utiliser l'objet,
ouais,
de le manger, de le salir.
Aussi l'effort que ça demande, ouais, d'aller à la rencontre d'un livre et d'un personnage et d'une histoire, je trouve ça intéressant, ouais.
Lola Séchant, Bartok, la plus jeune taupe de la tribu Bilowa, qui s'installe au bord du ruisseau, qui écoute les bruits, les sons de la nature, du repos, avec en arrière-plan ses copains qui construisent une cabane. Moi, j'ai lu avec mon fils, quand il était tout petit, 2550 fois cette histoire.
L'enchaînement des bruits, les petits rythmes.
Pour les faire soi-même, c'est dur de faire le ruisseau, par exemple.
C'est pas évident.
C'est la minute ASMR.
C'est un peu à l'acteur studio, quoi. Faut interpréter le bruit de... Ben l'axolote.
Ouais, c'est ça. Vous savez faire le ruisseau avec la bouche?
Attends, je t'aide.
Moi, j'ai fait le cheval.
Il y a des effets spéciaux dans cette émission.
Gros moyen.
Non, mais typiquement, c'est ce genre de livre qu'on peut montrer aux tout petits. Et ce qui est marrant, c'est de voir ce que les enfants vont regarder chez les enfants des 1 an, des 18 mois, vont regarder dans un livre. Nous, on voit pas du tout la même chose. Le goût se transmet dès là, en fait.
Bah, moi, je me souviens énormément de lectures où mes parents me lisaient le texte et tout ça. Et moi, je pouvais focaliser sur un détail de l'image pendant des heures et des heures. À chaque fois qu'on relisait le livre pour la millième fois, c'était ce petit détail caché dans l'image. Donc ça me plaît, moi, quand je fais les livres pour enfants, il y a vraiment toujours des petits trucs cachés dans un coin.
Les petits détails en plus.
Voilà, bah, quand on était petit, on regardait la maison de la famille souris et on voyait qu'il y avait un doudou tombé sous une petite table. Et c'était ça, moi, qui happait mon attention. Et ça, c'est assez fascinant, au-delà du texte. Hein,
Et les lecteurs, ils vous en parlent de ces petits trucs cachés ?
Oui, ils me disent « J'ai vu que là, il y a le hérisson caché au fin fond de la branche du saule pleureur. » Oui, ça c'est un vrai...
Il y a un côté boîte à bonbons, je trouve, dans cette approche que je trouve hyper intéressant dans cette idée de profusion. Et chacun va aller piocher la saveur, l'émotion, le détail qui va lui faire du bien. Et c'est ça qui est beau.
Et le gars qui a inventé Où est Charlie, c'est un génie parce que des détails, voilà. On peut regarder ça pendant des heures et des heures. Et
hier soir, j'ai relu pour la 2000e fois L'île déserte de Claude Ponty à mon fils. Et on a remarqué un nouveau détail qu'on n'avait jamais vu. C'est un truc de dingue.
On peut en parler de Claude Ponty. Ouais. Parce que lui, il a son monde à part, son vocabulaire même, qui parle plus aux enfants qu'aux adultes.
Ouais, les popos tapomélos, voilà. Je t'ai jamais compris. Mais
on comprend pas, mais les enfants comprennent.
Ah ouais, ils ont. Ouais.
Et alors, c'est quoi son secret avec Claude Ponty ? Vous l'avez déjà rencontré, Claude Ponty ?
Je l'ai interviewé, non, à distance, j'ai jamais rencontré en vrai, mais son secret, vous êtes marrant, c'est un génie. Alors. Ouais,
qui est resté un enfant.
C'est une folie créatrice, le vocabulaire. Moi, ça me fascine, cette manière d'inventer des mots, mais qui résonne, enfin, le Zert qui est amoureux d'une brique et qui offre des fleurs à sa brique et le jardinier va dire mais tu vois bien qu'elle te répond pas, enfin, il n'y a aucun commentaire
ça
à faire en fait.
On lit sous l'histoire extasie, alors que les enfants ils comprennent.
Et t'as l'impression de parler un crypto-langage mais qui te parle quand même et que
c'est
tu
ça.
Comprends
il offre des saucisses à sa brique et ben ouais, en fait il n'y a aucune limite à l'absurde
c'est
et à la rigolade.
C'est comme une chanson d'Aya Nakamura, tu ne comprends pas mais tu comprends.
Les enfants comprennent mieux que nous, c'est vrai, hein, on s'en
et c'est ça, c'est sûr. Et là en l'occurrence il a repéré un détail qu'on n'avait jamais vu, donc c'est une boîte au trésor ce bouquin.
Je vous ai demandé à tous les trois de me dire des livres qui vous ont marqué dans la vie. Lola, on commence avec vous. Daniel Pénac, vous m'avez notamment cité.
Moi, je pense qu'un des premiers. Déjà, je pense que Daniel Pénac a été très fondateur dans ma famille parce qu'en fait, ma mère était allée le voir. Ils aimaient les Malocènes et tout ça, mais quand il a fait Cabo Caboche et L'œil du loup, ils me l'ont lu. Ma mère me l'a lu, et l'un ou l'autre, mon père ou ma mère. Et je suis tombée folle amoureuse de L'œil du loup. C'était cette histoire de loup dans un barreau qui voit cet homme venir le voir tous les jours et qui, en fait. Il est agacé par cet homme qui vient le regarder tous les jours et qui le fixe. Et au bout d'un moment, il décide « Ok, tu veux me fixer ? Bah, je vais m'arrêter et je vais te regarder en face. » Et en fait, l'homme qui vient le voir au zoo plonge dans son œil et découvre toute son enfance, de comment il a été capturé à l'époque et comment il est arrivé au zoo. Et après, c'est l'inverse. Le loup plonge dans l'œil de l'homme et il lui raconte son immigration d'un pays d'Afrique. Et moi, ça m'avait bouleversée. Et en fait, ma mère était allée en dédicace voir Daniel Pénac et elle lui avait dit « Ma fille a, je ne sais plus quel âge, peut-être 10 ans. » Et je continue à lui lire des livres. Est-ce que c'est idiot ? Est-ce qu'il faudrait justement la laisser lire toute seule maintenant ? Et il lui avait dit, mais au contraire, lisez tout, le plus tard possible, lisez avec elle, parce que c'est comme ça qu'on donne le goût. Et c'est ce qu'il avait raconté dans Comme un roman, en fait. Il essayait de parler de comment transmettre la lecture. Et en fait, le fait que les parents, même quand l'enfant peut lire lui-même...
On peut continuer de lire.
Voilà.
Et je crois que lui, en tant que prof, on m'a raconté ça, parce qu'il a été longtemps prof, il continuait de lire, même à ses élèves de 4e, de 3e, des histoires une heure par semaine. Et les élèves, apparemment,
j'aurais
ils écoutaient ça.
Rêvé de la
ouais, ouais, pas mal. Hein.
C'est génial. Nous, on fait encore ça avec ma fille. Parfois, le dimanche, on se pose, elle prend Watership Down, qui est un classique anglais sur une fable politique avec des lapins, et elle me les lit comme ça pendant 20 à 10 ans, pendant 20 minutes elle me lit une espèce de conte politique, et c'est fascinant. Il faudrait faire des goûters lecture en fait, parce qu'il n'y a rien qui donne plus envie que d'avoir un passeur en fait, un conteur qui...
Sauf qu'à l'heure du goûter, moi, ça m'endort. C'est le seul problème, c'est quand j'écoute.
À l'apéro, alors.
Vous réussissez, vous, à écouter, je pense à ça, vous réussissez à écouter des histoires, comment on appelle ça, des histoires, des livres lus,
Il y en a des très bons maintenant, avec les bruitages, t'as l'impression vraiment d'écouter un film. Alors, moi, oui, je, ça m'endort.
Ouais.
Moi, j'aime bien en voiture, au contraire, parce que j'ai l'impression.
Alors,
de
oui,
vraiment...
en voiture, c'est bien.
Mais effectivement, sinon, je suis toujours un peu gênée par l'interprétation du comédien ou de la comédienne.
Qui te vole quelque chose aussi de ton imaginaire.
Ouais, que c'est pas comme ça que je l'aurais dit. Enfin, c'est l'éternel problème de l'adaptation. C'est comme au cinéma, en fait. Le personnage, il a pas cette voix. Enfin,
c'est tellement magique de se le faire dans la tête, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien qui remplace l'imaginaire sur ça. Moi, j'aime pas trop. Je suis restée à la fesse en voiture.
À la fesse.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Humoriste.
Je me demandais de quoi il parle.
Bien cette phrase. Je suis restée à la fesse en voiture. On est déjà parti sur un autre sujet.
Très bien, très bien.
Non, écoutez, c'est canular.
On va ouvrir le registre des lectures érotiques juste après. D'abord, on parlait de Daniel Pénac dans la série des Poncifs. Je vous propose de l'écouter. Il est venu il y a quelques mois dans notre émission sur France 2. Et ce qui l'énerve, lui, c'est quand on lui dit que les enfants ne lisent plus que des histoires courtes, que les enfants n'ont pas envie de se fouler. Écoutez-le.
Quand Harry Potter est sorti, le lieu commun, ce qui se disait, le préjugé absolument partagé par tous les adultes de ma connaissance autour de moi, c'est que les enfants ne pouvaient pas lire de gros livres. Ça les barbait. Et puis tout d'un coup, boum, Harry Potter, 700 pages, tous se précipitent sur Harry Potter. Et pendant des années, je les ai vus lire d'énormes pavés. Donc, on dit beaucoup de bêtises. Hein. C'est-à-dire, beaucoup de bêtises, beaucoup de préjugés, beaucoup d'opinions arrêtées. Moi, qui ai maintenant un certain âge, la première classe dans laquelle je suis rentré, j'étais professeur, donc, en 1969. Le premier mot que j'ai entendu en 1969, c'était « ils ne lisent plus ». Donc, vous imaginez. Alors, la première question que j'ai posée, c'est « par rapport à quand ?» Par rapport aux gosses de 1869 ou par rapport à qui? Par rapport aux petits gosses du Texas, là, en ce moment, en 1969. Donc, c'est des bêtises, des préjugés. Ce sont des espèces de... C'est un paradoxe, un confort moral, ces convictions. Les gosses ne lisent plus, les gosses n'aiment pas lire, les gosses... Non.
Bon, Daniel Pénac, je crois que tout le monde est unanime, tout le monde aime Daniel Pénac, ici. Et Lola, vous disiez, ouais, Harry Potter, il y a un avant et un après.
Bah, je crois avoir lu quelque part justement que Harry Potter a changé la manière de lire des enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement happés, enfin tellement amoureux de l'histoire du texte, que en fait des enfants qui étaient beaucoup plus petits que l'âge de lecture soi-disant se mettaient à aller à minuit à la librairie le jour de sortie acheter le pavé de 300 pages et se retrouvaient à lire des livres de 300 pages alors que c'était des âges qui devaient lire des premiers romans en fait.
C'est ce que je constate chez mon fils. Là, ça fait plus peur en fait cette idée qu'on commence un très gros livre et qu'après il y en aura d'autres. Il y a eu Mortel-Adèle qui était le premier pas vers l'entrée en saga en fait. Et puis là, Harry Potter, cette idée...
Après, je crois qu'en plus, maintenant, par rapport à la BD, il y a un mouvement assez spécifique, assez américain, qui est le roman graphique jeunesse maintenant. Et donc, je vois même en BD, je vois maintenant les lecteurs veulent lire des pavés. Ouais. Moi, ma fille, elle veut des pavés. Ça reste minimum 200 pages.
C'est
aussi.
Quand même un peu dingue, les critères de choix des enfants, comment ils choisissent les bouquins. Ils me disent souvent, ça me dit rien. En fait, ils se basent uniquement sur le visuel de la couverture.
Ça me rend dingue.
Alors, moi, on m'a écrit pour me dire, je n'ai pas pris votre livre parce que la quatrième de couverture était écrite à la verticale. Très bien,
après,
pas de problème.
Après, comment est-ce que nous, on choisit les nôtres? En vrai, il faut aussi s'interroger, mais bon.
C'est bizarre qu'elle t'écrit, faut te dire
oui,
ça.
Alors, c'est la magie des réseaux sociaux. Mais ce qui est marrant sur la peur du pavé, c'est que finalement, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, notamment quand on parlait tout à l'heure de One Piece. 100 tomes de manga, on parle de tomes qui ont plus de 200 pages à chaque fois, fois 100, alors je suis très mauvais en maths, mais j'imagine que ça fait beaucoup de pages. Évidemment, enfin, je pense que c'est vraiment une question de comment on rentre dans un nouvel univers et cette profusion de propositions qui, à un moment donné, nous implique au point que, comme dans une relation amoureuse, on envoie plein de textos, on a besoin de parler à la personne, on a besoin d'être en contact. Et ben là, on va aller du livre 1 au livre 2, au livre 3, au livre 4, parce qu'on n'a pas envie de laisser cette personne-là.
Alors, vous connaissez l'histoire de l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling, où en fait, on n'a pas mis son prénom en couverture, parce qu'à l'époque, les éditeurs anglais se disaient si on met un prénom de femme, tout le monde va penser que c'est destiné aux petites filles. Et on se coupe des lecteurs masculins. Quand on y pense, c'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est quand même incroyable.
Parce qu'on a pas le coup social du rose, vous connaissez cette histoire.
Voilà, qui est un peu plus. Qui est
10%, c'est beaucoup plus valorisé pour un garçon, pour une fille de lire un truc de garçon que pour un garçon de lire un truc de fille.
C'est ce qu'on nous a toujours dit sur Mortel-Adèle et notamment le fait que c'est dommage, vous devez vachement vous stigmatiser parce que vous vous privez d'une partie du public parce que c'est une héroïne fille. Alors que si ça avait été un héros garçon, vous aviez les filles, ça les gêne moins de lire un héros garçon.
Il y a des gens qui vous disent ça encore.
On nous a dit ça, mais
c'est plus vrai.
Est-ce qu'il ne se vérifie pas du tout?
Non, pas du tout.
Parce qu'en fait, sur Adèle, on a un lectorat qui est très mixte. Et on a des garçons qui ont compris qu'on peut avoir une petite fille comme héroïne et que ça remet pas du tout en cause leur construction de garçon. Et...
Mais ça, c'est assez récent quand même, hein, parce que même dans notre enfance, nous, on se projetait dans les héros mâles, masculins et tout.
Mais aussi. C'est ce que les enfants ont compris, eux. C'est-à-dire que Mortal Adèle, typiquement, est une héroïne qui a été imposée par les cours de récréation. Au départ, les parents n'étaient pas du tout de notre côté et a été vraiment imposée par les cours de récréation. Et c'est rigolo de voir que finalement, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans la lecture et dans le fait d'amener les enfants vers des héros, vers des héroïnes, vers tel sujet, viennent pas des enfants, viennent vraiment des parents
ou
des prescripteurs qui... ne font pas suffisamment confiance aux enfants.
Moi, j'ai eu des super discussions avec mes enfants sur les stéréotypes de genre grâce à Mortal Adèle. Parce qu'ils disaient des trucs du genre, ouais, d'accord, c'est une fille, mais quand même, elle est super parce qu'elle voilà, elle dit des gros mots, je sais pas quoi, machin. Bah, enfin, il associait, il avait l'air de dire que c'était pas une fille du coup.
Mais juste
et
Antoine,
c'était
qu'on
super intéressant.
C'était des éditeurs au début qui disaient c'est dommage qu'Adèle ça s'appelle
non,
pas.
Non, c'est pas vraiment. Non, c'est pas les éditeurs. C'était vraiment plus au niveau des gens qui venaient nous voir en librairie sur des dédicaces et qui nous disaient
des spécialistes.
Ah bah, c'est dommage parce que votre BD elle a l'air sympa, je l'aurais bien pris, mais moi j'ai un garçon donc ça va pas lui plaire. Et d'autorité, il y avait quelque chose qui était du domaine de la frontière. Nous dans Mortal Adèle, il y a une planche où elle dit elle se fait traiter de garçon manqué. Et parce qu'elle est...
Ce qui est une expression d'ailleurs formidable.
que je déteste absolument.
On a tout entendu.
Et elle lui répond, je suis pas un garçon manqué, je suis une fille parfaitement réussie. et y a quelque chose de ce registre-là, je trouve... Alors après, peut-être je me trompe, parce que c'est ces enfants-là qui viennent à moi, donc ça fausse peut-être mon jugement, mais je trouve que cette nouvelle génération d'enfants, elle intègre plus ce registre-là.
Après, peut-être dans certains milieux particulièrement. Je pense qu'on a peut-être la chance.
Je sais pas, parce
mais
que moi,
c'est vrai que c'est plus ouvert, ça bouge sur ça. Hein. Mais
sur Adèle, aujourd'hui, on est sur un public qui est très large, et on est sur 10 millions de lecteurs, donc ça donne quand même un panel.
Oui, globalement, ça touche tout le monde. De toute façon, les enfants sont moins réactifs que nous sur toutes ces questions. Les questions de genre, les questions de racisme, les questions de.
Là, oui, parce qu'en général, sinon les enfants sont
assez réactifs quand même. Hein. Les enfants sont de droite. Hein. Après, on s'éduque, mais j'ai pas de jugement.
Justement, à propos d'enfants qu'on éduque conservateurs ou pas, je vous propose d'entendre un autre enfant. C'est une petite fille qui s'appelle Eléa et qui nous parle de son livre préféré, elle a 9 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Eléa, j'ai 9 ans et demi et mon livre préféré est Les culottés de Pénélope Bagieux. J'adore ce livre car il parle de femmes qui militent pour le droit des femmes, les minorités ou encore l'écologie. Et ce sont des causes pour lesquelles je veux militer. Au revoir!
Voilà, on peut peut-être dire un mot justement du rôle social, éducatif et même politique des livres pour enfants. Antoine, on peut raconter l'histoire que vous avez dû raconter 1000 fois. Je suis désolé, hein, mais bon, il faut bien y passer un moment. La création de Mortal Adèle. Allez, je résume. Vous avez 14 ans, vous commencez à inventer ce personnage qui est l'opposé de vous, qui est une fille qui a confiance en elle alors que vous êtes plutôt timide, qui est une fille qui se laisse pas emmerder alors que vous êtes plutôt harcelée.
Ouais.
Et donc vous décidez de créer cette histoire.
Oui, alors dans la bouche des autres, c'est toujours bizarre.
C'est toujours caricaturé, peut-être.
Non, bah oui, en fait, moi j'étais victime de violences scolaires qui étaient assez violentes de la 6e à la 4e. Et comme rien de ce que j'étais n'avait l'air de fonctionner avec les autres, je me suis dit que j'allais créer quelque chose qui était l'inverse. Et donc j'ai un jour pris cette feuille, j'ai dessiné un trait qui était la barre de front d'Adèle avec deux yeux. J'avais besoin qu'un personnage me regarde et me fasse exister à nouveau. Et c'est devenu Adèle.
Et c'est devenu Adèle. Bon, je l'avais pas trop mal.
Non, c'était bien. Si bien. C'était juste. Voilà, j'avais besoin de reprendre un peu possession de mon histoire.
Après tout, c'est la vôtre. Non, ce qui est intéressant, c'est que j'imagine qu'il y a énormément d'enfants qui eux-mêmes victimes de harcèlement, de violence, peu importe le degré de violence dont ils sont victimes, qui se retrouvent dans Adèle.
Oui, parce que la violence, elle n'est pas forcément aussi dite dans Mortal Adèle. Et c'est ça qui est marrant. En fait, moi, quand j'ai créé ce personnage-là, c'est né de ça, mais ça n'a jamais été un sujet dans la bande dessinée. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que les enfants ont reconnu ce sujet-là et m'en ont parlé. De sorte que moi, je me suis mis à en parler, parce qu'au départ, je ne parlais jamais des violences scolaires. J'en ai parlé pour la première fois il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Mais ça n'avait jamais été un sujet que j'abordais. Et moi-même, je pensais que c'était un sujet qui avait été totalement secondaire dans ma vie.
Mais en fait, elle a tellement de répartie, Adèle. Elle a tellement une faculté à renvoyer paître ce qui l'emmerde.
Je pense qu'elle a une vraie volonté de ne laisser personne polir les contours de qui elle est. Et qu'il y a une vraie défense, à un moment donné, de cette notion de territoire mental. Chez Adèle, et je pense que c'est ça en fait qui à un moment donné parle aussi aux enfants, c'est ce truc de se dire j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit de prendre la place que je veux Et voilà. Et personne n'a le droit de remettre ça en question, de remettre en question à quel point je suis mortel.
Mmh. Et Lola, c'est formidable d'avoir des modèles comme Adèle, parce que nous, quand on était petits, les modèles, enfin, j'ai l'impression, c'était surtout les Disney. Surtout si on parle des filles, les modèles qu'on imposait aux filles, c'était Blanche-Neige, c'était Cendrillon.
Bah, c'est-à-dire que nous, en tant que filles des années 80, on s'est projetés dans des hommes. On avait Robin des Bois, on avait plein de personnages masculins dans lesquels on pouvait se projeter sans se poser la question. D'ailleurs, nous, on se posait pas une seconde la question est-ce que je peux me projeter dans un garçon ? C'était ça, c'était une histoire, quoi.
En fait, les filles, c'était des princesses.
Non, il y avait quand même aussi Mercredi Adams, qui était Mafalda, qui était. Après, il y avait des autrices de littérature, les Duras et les.
Ah
voilà,
oui, d'accord.
Ouais. Et vous savez, la femme qui a fait Les Moumines, Tove Jansson. Enfin voilà, on pouvait se projeter, mais plus dans les créateurs, les créatrices derrière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Après, dans les Disney, les filles, elles ne se laissaient pas faire. C'était quand même.
Ouais, elles ne se laissaient pas faire, mais ça
dépendait.
C'est moyennement rêvé quand même.
Je sais pas, je voulais habiter dans une chaumière avec sept monsieur.
Non, pas Blanche-Neige, j'avoue que celle-là, là, je me suis pas projetée. Je me suis plus projetée dans les noms.
C'est vrai que Blanche-Neige.
Je voulais te faire poursuivre par un inconnu qui voulait te faire essayer une chaussure que tu n'avais jamais vue jusque-là.
Moi, j'aimais bien la belle Marianne dans Robin des Bois.
C'est vrai.
Qui joue au badminton, qui dansait dans la forêt avec Frère Tuck.
Avec de très grandes perspectives d'avenir.
Bon, c'est vrai que je préférais Robin, quoi. Quand même.
Ouais, Robin qui avait la classe, qui avait tout pour lui, qui était sympa, c'était le bon copain.
Mais c'est un peu le syndrome des t-shirts. Ils en avaient parlé il y a quelques années de ce truc. Il y avait une étude qui avait été faite dans les rayons de vêtements pour enfants et sur les t-shirts des filles, c'était toujours marqué je suis mignonne, je suis jolie, je suis sage. Et sur les t-shirts des garçons, c'est marqué je suis un pirate, je pars à l'aventure. Ouais. Et effectivement, pendant très longtemps, je pense qu'il y a eu cette tonalité qui était beaucoup plus acceptée qu'un petit garçon fasse des bêtises, qu'un petit garçon soit désobéissant, avec des Denis Lamette. Avec des titeufs,
C'est pour ça que le manga a marché, je pense.
Ouais.
Parce que le manga est arrivé dans les années 80-90 avec des héroïnes, avec Ranma, avec ce personnage
et
qui
devient
une femme. Des femmes puissantes, avec Harale dans Dr. Slump, une petite fille robot qui fout
qui
la merde partout.
Surhumaine,
voilà. Et tous les mangas, c'est quasi. Il y a beaucoup d'héroïnes dans les mangas et aussi un ton entre, justement, avec de l'ironie, avec du second degré, qui est toujours entre l'humour, le loufoque et aussi plus d'aspects plus sombres.
Et à l'inverse, des garçons qui sont aussi dans une masculinité un peu plus construite dans une autre dimension. Par exemple, je pense dans Les Chevaliers du Zodiaque, le chevalier d'Andromède, que tout le monde adorait faire tourner des trucs autour
flamboyant.
De ça. Qui était flamboyant, exactement, et qui était. Qui n'était pas un modèle de virilité absolue.
Non, oui, les personnages masculins dans les mangas étaient plus dans le doute,
dans la sensibilité, dans l'expression de fragilité.
Bon, pas dans Olive et Tom. Hein. Je sais pas si vous regardez.
Non, mais dans Olive et Tom, il y avait beaucoup de supercheries quand même.
Globalement.
On ne peut pas croire que ces terrains de foot de 200 km de long existaient vraiment.
Tirer un but, ça mettait 25 minutes.
Mais bon, il y avait une bromance quand même. Il y avait un truc.
Il y avait une bromance. Il y avait une bromance. Ah bah tiens, quitte à parler de manga, à parler de Dragon Ball Z, je vous propose qu'on entende Marceau qui nous parle de ses livres préférés. Écoutez.
Je suis Marceau, j'ai 8 ans et je suis en CE1. J'aime bien Dragon Ball parce que il y a des combats, je peux les lire facilement et j'ai la collection que je range bien dans ma bibliothèque pour faire un dessin. J'aime bien lire les Dragon Ball parce que je sais que quand j'en aurai fini un, j'en aurai un autre à lire derrière. Et aussi que mon papa, c'est lui qui m'a dit d'essayer Dragon Ball. Et parce que lui, il les lisait quand il était petit. Ça m'a branché. Contrairement aux livres de l'école aussi, c'est que quand tu les as finis, les livres de l'école, il n'y a plus de suite. Alors que dans Dragon Ball, il y a une suite.
Merci beaucoup à Marceau. On ne peut que valider Dragon Ball Z, évidemment.
Bon, écoutez, il ne faut pas que vous restiez ici tous les deux. Vous allez retourner immédiatement chez Tortue Géniale.
Qu'est-ce que tu dis ?
Est-ce que tu fabriques ? Vous pouvez passer la confiance que tu avais tout à l'heure. Ne me dis pas que tu es en train de chercher un moyen de fuir.
Continuons notre combat autre part.
Comme tu voudras. Ça ne changera rien.
Bon, il faut qu'on parle des écrans.
Est-ce que, parce que voilà, on a beaucoup
tout
parlé.
Tout le monde se redresse dans sa chaise.
Ah mince, ça devient sérieux et chiant. Non, ça va pas être chiant. On a beaucoup parlé de, en gros, 7-11 ans, les enfants lisent. Avant, on a beaucoup lu aux enfants, ça leur a donné le goût de la lecture. Et vers 11 ans, c'est là où il y a une cassure. Souvent, parce que c'est le moment où on a le premier téléphone portable. Dorothée, est-ce qu'il faut opposer, selon vous, les écrans et la... Enfin, est-ce qu'il faut les opposer? Non. Mais est-ce que forcément, on est voué à moins lire quand on a un téléphone?
Vraiment aucune leçon à donner en matière d'écran. C'est tellement compliqué. Chacun bricole chez soi comme il peut. On sait. Maintenant, on le sait. Donc, il faut le répéter quand même que c'est dangereux pour le cerveau de nos enfants, etc. Mais voilà, on dose comme on peut. Moi, je peux donner un conseil de lecture parce que je l'ai expérimenté récemment avec mon filleul qui a 15 ans, qui avait beaucoup lu en primaire, justement, qui était un grand lecteur en CE2, CM1, CM2. Puis, il a complètement arrêté. Et là, je lui ai offert Amour Chrome, qui est un roman de Sylvain Patieu, qui a obtenu des prix littéraires.
Oui, le prix Vendredi, le prix Cendre, ouais. 2021.
Et c'est un bouquin, c'est un roman, c'est une trilogie. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul tome qui est paru. Et il m'a appelé là pour me dire, mais il paraît quand le tome 2? Ce gamin ne lisait plus depuis 3-4 ans et il est à fond. Alors à quoi ça tient? C'est miraculeux. C'est écrit, il me dit, c'est écrit comme on parle. Du coup, moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est la plume. Enfin, effectivement, il y a quelque chose de restitution de la langue orale dans la plume de Sylvain Patieu, mais ce n'est pas du tout du langage SMS. Il y a une virtuosité du style littéraire.
Et une sincérité aussi dans
l'écriture. Et une justesse dans la manière de mettre les sentiments en mots qui est très adolescente.
Ce que ça montre, c'est qu'il faut un peu se creuser la tête en tant que parent pour trouver quelque chose d'adapté.
Voilà. Il n'y a pas des enfants qui lisent. Il y a des enfants qui n'ont pas encore trouvé le bon bouquin à lire. Quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Et vraiment, ce bouquin-là, mais offrez-le. Moi, j'arrête pas de l'offrir du coup depuis. Offrez-le à vos ados.
Et, Amour Chrome.
C'est une... Attends, c'est quoi? C'est une figure de style. Hippalage, j'espère que j'ai pas de conneries. Parce que c'est deux mots qui vont pas ensemble d'habitude.
Ah oui, d'accord, ouais.
L'amour chrome, et donc tous les tomes vont être des hippalages. Attends, j'espère que c'est...
C'est Riyad Satouf qui disait, on lisait, mais c'est difficile avec Netflix quand ils l'ont sur leur tablette dans leur chambre, s'ils ont le choix entre Netflix et une bonne série et un bon livre. Ouais. Et il répondait, offrez-leur un Stephen King. Et vous allez voir, à 14 ans, c'est un exemple, bien sûr, mais il faut trouver le bon livre.
Je pense que c'est des rencontres. C'est de la même façon que vous allez rencontrer plein de gens dans votre vie et que vous allez devenir amis avec certains et que d'autres vont vous ennuyer, et que vous allez tomber amoureux d'un et puis pas d'un autre, etc. Les livres, c'est exactement pareil. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tous les livres qui existent, tous les livres qu'on vous présente. Il suffit que vous rencontriez le bon livre au bon moment pour qu'il y ait un impact dans votre vie et que ce livre vous accompagne et que vous ayez envie de l'offrir partout. Et...
Sans tomber dans le « tout se joue avant 10 ans » qui est très culpabilisant, il y a quand même ce truc, j'ai l'impression en tout cas, pour reprendre l'exemple de cet ado, le fait d'avoir beaucoup lu petit, il y revient plus facilement. Donc il y a quand même un enjeu, me semble-t-il, à l'école primaire, de vraiment de les inciter, de les faire beaucoup lire. Et si vous constatez qu'ils décrochent au collège, c'est pas grave, c'est comme le vélo, ça reviendra. À mon avis, un enfant qui a peu lu plus jeune, ça sera compliqué d'y revenir à 16 ans. Quoi.
Après, je pense aussi qu'il y a des dynamiques d'âge qui sont différentes, parce que quand on a en dessous de 10 ans, on est vraiment dans une notion aussi de rapport au monde, où on s'accroche à des choses pour trouver qui on est. Et puis on arrive à un âge aussi, à un moment donné, où on a besoin d'expérimenter par soi même et puis de s'affranchir aussi de l'autre. Et donc moi, ça me choque pas forcément qu'on traverse une période de notre... Moi, j'ai été cet ado là, c'est à dire j'étais un ado qui n'a pas lu du tout et je me suis remis à lire à l'âge de 17 ans parce que j'avais l'impression que tous les livres qu'on me présentait ne me parlaient pas, c'est à dire ce n'était pas dans l'immédiat de ce que je vivais et donc n'avait rien à m'apprendre. Et c'est pas grave, j'ai fait d'autres rencontres, je me suis nourri d'autres émotions et je suis revenu à la lecture à un moment donné où ça c'est devenu nécessaire.
C'est aussi peut-être une forme de contestation vis-à-vis des parents, enfin de trucs, vu que c'est très bien vu auprès des parents parfois, donc on n'a pas envie de le faire.
Moi j'étais une lectrice ado compulsive, mais je lisais à longueur de vie, je marchais dans la rue en lisant. Et mon grand plaisir, c'était quand je finissais un livre d'aller voir mes parents en leur disant « Alors, qu'est-ce que vous allez me conseiller ?» Et là, ils regardaient à la bibliothèque et on passait 2 heures.
Ah oui, donc il y avait l'échange avec les parents quand même qui...
Non-stop. Après, je pense qu'un jour, je commençais à lire Autant d'emporte le vent avec ma mère, mais je pense que j'avais 17 ans. Elle me lisait encore Autant d'emporte le vent.
À voix haute.
Oui, à voix haute. Et où normalement, mon père, il a dit « Mais tu peux pas, faut que tu vois le film !» Il m'a acheté de la cassette VHS.
C'est marrant parce que d'habitude, on dit ça dans le sens inverse.
Il avait lu le livre déjà, mais il me dit « Mais c'est un chef-d'œuvre du cinéma hollywoodien. » quotidien. Hein. Et après, c'était ça. Sur chaque livre, il le piochait dans la bibliothèque. Il disait, l'histoire de ce livre, c'est ça, le livre culte. En passant par Stephen King, évidemment, mais ça a été...
Stephen King, à voix haute, insomnie assurée. Non
ouais. Ah ouais, bah, il me lisait Stephen King, mon père, et il me zappait les scènes de cul. Oh, et en fait, je m'en suis rendu compte des années plus tard en relisant Cimetière.
Ça va, les éventrales.
Ouais, ouais, ça va.
Les
mais le sexe, non. Plus une famille protestante.
Je me souviens d'avoir lu Carrie, peut-être un peu jeune. Et de Paris, vous vous souvenez de la fin avec le sang de porc versé sur les. J'arrivais plus à dormir et ça m'avait un peu refroidi de la lecture. Ouais. Donc, faut pas se tromper non plus avec les.
Moi, les scènes de cul, ça me fait penser à. J'ai lu La bicyclette bleue quand j'étais ado, la saga de Régine Desforges. Et je me rappelle de son sentiment. Donc, c'est paru dans les années 80. C'est des roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est résistante, donc elle a toute une dimension historique, mais c'est aussi ses amours et un peu sa vie sexuelle. Il faudrait que je le relise aujourd'hui parce que je ne crois pas que ça soit si torride que ça.
Si trash.
Mais je me rappelle de cette sensation de « je suis en train de lire ça sous le nez de mes parents et j'ai le droit ». C'est quand même un truc un peu dingue la lecture pour ça. Voilà, c'est hyper transgressif.
Et même dans les mangas, il y a ça. Hein. Moi, je
jamais de la vie, j'aurais osé parler de ça avec ma mère ou mon père, mais le fait de lire et qu'il soit là et que ce soit OK, j'en ai un souvenir de pouvoir immense. Et ça, c'est super pouvoir de la
c'est
lecture.
C'est la littérature, ça, madame.
Bernard Pivot, quand on lui demande comment donner le goût de la lecture aux enfants, il dit « commencez par donner l'exemple ». C'est presque le.
Faites semblant.
L'Oléa, c'est ce que le raconte.
Je pense.
Si on voit des parents qui lisent.
Mettez votre iPhone dans un livre.
Pour moi, c'est un peu comme le métier de professeur. Enfin, je veux dire, comment apprendre quelque chose mieux. Enfin, si quelqu'un nous le transmet, on l'apprend mieux. On le comprend. Une leçon racontée par un professeur, elle rentre mieux. C'est plutôt que lu sur un ordi ou dans un livre. C'est. Voilà, si un parent introduit un livre, je vois pas comment.
Vous savez que j'ai déjà fait le coup d'avoir mon portable caché dans un livre pour faire rapport à mes enfants.
Quel père indigne, tout le monde le sait maintenant.
Sur Instagram, tranquille, à regarder un peu les photos des autres comme tout le monde, puis mes enfants croyaient que.
Moi, j'ai un truc que je faisais pas mal, que je fais encore avec mes enfants, c'est quand on a lu un livre, et ensuite dans le métro ou en promenade, on se le re-raconte.
Ouais.
Et en fait, essayer de se rappeler, donc notamment quand on est plusieurs, c'est sympa, genre ah non, mais t'as oublié telle scène, à tel passage, etc. Exister le livre en dehors du moment de lecture pour qu'il devienne. Parce que voilà, les enfants aiment bien qu'on raconte des histoires, les anecdotes, etc.
Ça, c'est formidable. D'ailleurs, on peut le faire avec les tout petits, d'ailleurs. Ouais. Un enfant de 3 ans à qui on lit
et quand je vous le conseille en randonnée, quand ils ne veulent plus avancer.
Je crois qu'on fait des randonnées.
Non, mais.
Tu m'as bien regardé.
Et on fait que de la radio. Hein.
Franchement, mais encore après
la. Ou alors, quand il faut prendre le métro, n'importe quoi, quand il faut marcher, ça marche de ouf, ça, de dire. Allez, tu te rappelles de.
Mais c'est intéressant parce que ce que tu décris, c'est aussi un mouvement qu'on voit beaucoup dans le monde de l'édition aujourd'hui, qui est dans la dimension de la lecture enrichie, c'est-à-dire d'aller aussi sur des expériences autour de la lecture. C'est-à-dire, alors là, on est avec Lola, on avait nos expos Angoulême, qui sont aussi des moyens de faire rentrer en immersion les lecteurs dans un univers qu'ils apprécient. Mais il y a aussi tout ce qui est livre audio. Toutes les applications digitales qui existent aujourd'hui pour rentrer dans l'univers du livre. Je trouve que c'est intéressant aussi d'aller sur ce terrain-là et de montrer que la lecture, c'est pas qu'ennuyeux, entre guillemets, on est tous conscients que c'est pas ennuyeux, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi être perçu comme ça, d'un certain manque de vie et de
vivacité.
C'est
pas qu'un truc solitaire dans le silence, dans son lit le soir. Voilà.
C'est aussi quelque chose en plusieurs dimensions.
Et on peut jouer à changer la fin aussi, ça c'est super comme jeu avec les enfants.
Quand on n'a pas aimé une fin.
Les livres dont vous êtes le héros.
Ah, ça, c'était formidable. Alors, c'est parfait. Génial. Aucun enfant ne peut ne pas aimer ça.
Je ne sais pas si ça existe encore.
Ça existe encore, ouais.
Ça, c'était vrai.
Et ça marche bien. Et pour le coup, c'est marrant de le lire.
Il y a
eu
une BD
enfants.
Là qui vient de sortir comme ça, L'épopée infernale.
Mais moi, ça m'oppressait. Hein. Je suis peut-être la seule, mais ça m'oppressait cette idée.
Moi aussi, ça m'oppressait.
Je n'avais pas choisi.
Non, mais voilà, ça dépendait trop de moi. Laissez-moi tranquille, en fait.
Surtout que c'était dur dans mon souvenir d'arriver au bout des
missions. Ouais.
Est-ce que toi aussi, tu revenais en arrière si tu
j'aurais dû prendre la page 27, c'était sûr. Je le vivais hyper
mal. Les chairs de poule, vous lisiez ça ça aussi, c'est des souvenirs émouvants de l'enfance, non? À 8-9 ans où on a un peu peur.
Moi, j'ai toujours lu des livres d'horreur, en fait. Des choses, c'est pour ça que j'aime bien aussi Adèle et tout. Il y a un petit côté comme ça, un peu trash. Ouais, aller vers le fait de se faire peur sans avoir les parents derrière qui protègent.
Puis après, on dort plus de la nuit, puis on s'en veut. Papa, je peux dormir avec toi? Non, tu dors dans ton lit. Alors Adèle, on l'a dit, elle fait réfléchir les enfants. Elle peut être un peu trash, etc. Mais elle les fait aussi marrer. C'est ce que nous dit Malone, qui a 7 ans. Je lui ai demandé son livre préféré. Et bon, je vais être sincère. En fait, j'ai eu 50 réponses d'enfants qui m'ont dit Martel Adèle. J'en passe 15, sinon ça fait vraiment trop. Ou alors, vous avez appelé plein de vos...
C'était moi, en fait. Je change ma voix très facilement.
Et d'accord. Bon, bah, on va écouter Malone, qui a 7 ans.
Bonjour, je m'appelle Malone, j'ai 7 ans, j'adore les livres Mortel Adèle parce que dedans il y a Elle est très rigolote, elle fait des bêtises très rigolotes. Je rigole beaucoup avec ses livres. Et parfois même, ça me fait halluciner.
Voilà, c'est bien aussi de dire que Adèle et que les livres, c'est bien pour faire réfléchir tout ce qu'on dit depuis le début. Et c'est aussi juste un plaisir. Quoi.
Mais c'est surtout ça.
Il faut pas non plus prendre trop la
tête.
Et
c'est surtout là qu'on te fait réfléchir. C'est quand tu te rends pas compte qu'on te fait réfléchir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, à la base, Mortal Adèle, c'est vraiment une BD d'humour. Mais que les enfants se sont pas rendus compte que ça les amenait, quand ils nous rencontraient, par exemple, à nous parler de sujets hyper importants. Que ce soit, on disait tout à l'heure, la violence scolaire, l'intimidation, le fait qu'ils aient parfois pas confiance en eux, etc. Mais tout ça, c'est fait sous couvert d'humour. Et c'est aussi pour ça qu'Adèle, elle s'exporte dans beaucoup de pays. Elle est traduite, je crois, dans 13 langues. C'est ce qui est pas commun pour un livre sur l'humour, parce que l'humour, il s'exporte pas dans toutes les cultures et dans toutes les langues. Mais je pense que quand l'humour, il a un fond et un message derrière, il devient assez universel. Et c'est intéressant de voir que c'est un outil formidable.
Comment tu dis « poussez-vous les moches » en espagnol?
Je les écris en français, je ne les traduis pas.
Chacun son métier, madame.
Exactement.
Lola, un autre livre que vous vouliez conseiller, c'était « Winnie l'ourson ».
Bah, pour moi, Winnie l'ourson, c'est la Madeleine de Proust absolue. Ouais. C'était mon père qui me le lisait et ma mère était folle amoureuse.
Alors,
de
je me souviens plus trop des histoires de Winnie l'ourson, mais c'était palpitant.
Il y a pas beaucoup de textes en fait, mais non seulement il y a les dessins qui sont sublissimes de Shepard qui accompagnent le texte, et le texte il est fantaisiste, il est poétique, il y a de la mélancolie. Enfin, c'est anglais en fait. C'est ce petit tour, c'est ses amis autour. Et en fait, quand on le lit, c'est ce que tu dis, c'est que en fait il y a une double lecture. Chaque personnage, on a l'impression qu'il incarne une névrose. En fait, il y en a un, Bruquet, qui est complètement dépressif. Il y a Winnie qui est mangeur compulsif. Il a des troubles alimentaires.
Ah, il est boulimique en fait.
Oui. Ah oui, Porcine, il est complètement phobique. Il a une phobie. Il est agoraphobe. Il veut voir personne. Il est paniqué de tout.
En fait, ils sont tous
Tigrou, il est hystérique complètement. Ouais. Enfin. Voilà, okay. Ils sont le professeur la chouette, il est un peu psychorigide.
Tigrou, il consomme des trucs.
Tigrou,
sans
il consomme,
doute,
il bondit quoi. Il est perché quoi. Polytoxicomane de l'histoire.
Je vais peut-être relire moi du coup.
C'est magnifique.
Vu comme ça, du coup, c'est ça devient marrant.
Non, et non seulement c'est léger. Après, ça a été adapté par Disney. Et d'ailleurs, il y a des jolis dessins animés.
Je crois que la saison 3 de En Thérapie est une adaptation.
On est qu'à la 2 pour l'instant.
C'est en prévision.
Il faut rien spoiler. Je vous ai entendu sur France Inter le dire cette semaine.
On ne spoil pas.
Surtout, on ne spoil pas.
Oh bon, quoi, spoiler quoi? Qui guérit?
Ah non, il faut rien dire.
Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils viennent?
Ah oui,
non, mais dans Winnie l'ourson, personne guérit, je crois.
Ah oui, non,
chacun sa névrose.
Ils sont encore en thérapie, pour le coup.
J'ai découvert ce qui perturbait Bourriquet. C'est son anniversaire aujourd'hui et personne ne l'a remarqué. Et il est très, très malheureux.
Antoine, vous conseillez quoi? Enfin, non, pas vous conseillez quoi? Le livre qui vous a marqué?
Alors, moi, j'étais non lecteur. Je vais être très honnête avec vous. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les livres, mais par l'idée de les faire. Je trouvais ça très beau, les émotions que je voyais autour de moi. Moi, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit. C'est-à-dire que, autant c'était des hiéroglyphes, mais j'aimais prendre un crayon et faire des symboles sur une feuille et je les donnais. J'avais l'impression d'avoir raconté ma vie et mes parents très poliment rigolaient et souriaient, mais je fabriquais des petits livres avec du scotch et je trouvais ça passionnant de voir qu'on pouvait provoquer des émotions chez les autres, et ça a vraiment été le moteur du réacteur. Le vrai livre qui a touché mon enfance, c'est Le plus grand livre du monde de Richard Scarry, mais parce que c'est un livre qui permettait de faire aussi. C'est un livre géant avec énormément de détails. On parlait tout à l'heure de boîte à bonbons, mais Le plus grand livre du monde, c'est exactement ça. C'est un enchevêtrement de petites scènes, de personnages. On est très peu guidé. Et finalement, on invente avec son imaginaire, on crée ce livre en même temps qu'on le parcourt. Et c'est ça qui est assez fascinant et qui, moi, m'a tout de suite plu dans cette idée de faire des livres.
Et on sait que les enfants aiment beaucoup dessiner jusqu'à un certain âge, inventer des histoires. Et pareil, du jour au lendemain, presque, ils arrêtent. Comme s'ils avaient une forme de honte ou une forme de... Dans la création, ils deviennent grands. Et là, c'est le moment de leur dire, c'est le moment. Vous avez eu des moments où vous avez arrêté de créer, Lola? Ça vous est arrivé? Vous avez arrêté de dessiner à un moment dans votre...
Ah non, moi j'ai toujours dessiné, mais je n'étais pas sûre que ça serait mon métier au début. Je pensais plutôt réaliser ou écrire, mais bon, de toute façon, tout est lié. Après, je pense que les enfants, ça dépend. Moi, par exemple, ma fille, elle dessinait pas petite, parce qu'elle était un peu en réaction à me voir dessiner toute la journée. Elle avait pas envie. Ou alors, elle dessinait que des mécanismes, des schémas. Il y avait jamais de personnages. Donc chaque enfant se construit en contre-forme de ses parents, souvent. Après, je pense qu'il y a des âges, comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on est tout petit, on définit son rapport au monde, dans la famille et à l'école, en gros. Et quand on devient ado, bah, on va aller vers l'extérieur beaucoup plus. On va essayer d'aller interagir socialement, se définir amoureusement, donc on va plus loin. Donc peut-être qu'on fait moins d'activités intimes, manuelles.
C'est juste pour ça qu'on... D'activités qui nous exposent.
En oui, fait. Aussi.
Et tu vois, quand on est petit, on chante très librement
oui, voilà.
à la maison.
Oui, d'un moment, on a une conscience.
Et d'un coup, on se rend compte de ce que ça dit et ce que ça montre et ce que ça révèle de nous.
Et le regard des autres, là, vous avez dit que vos parents vous disaient poliment, c'est bien, continue. Heureusement qu'ils ont dit ça. Et pas, si ça se trouve, ça aurait bloqué.
Moi, j'ai toujours dessiné. Alors après, j'ai arrêté au collège parce qu'on m'avait cassé le pouce dans la cour de récréation. Donc, du coup, c'était quelque chose d'assez dingue.
Vous vous souvenez du nom du gars qui vous avait cassé le pouce?
Ouais. Je me souviens du nom des gars qui m'ont cassé le pouce parce qu'ils s'y sont pris à plusieurs, évidemment.
Ils vous ont jamais recontacté, genre sur Instagram, félicitations.
Alors,
tu te souviens,
mais il y a une fille qui m'a recontacté en me disant ah, ma fille, elle est fan de Mortal Kombat et tout.
Et elle faisait partie.
J'ai pas
des...
osé lui dire que c'est de elle dont est inspirée Jade, la coconne de la BD. Ouais. Ça, c'est très rigolo.
Il faut pas lui dire.
Ce serait un honneur.
Mais c'est très rigolo. Et non, tout ça pour dire qu'en fait, il y a un temps pour tout, je pense, dans une vie. La vie, c'est un très long continuum et que on dit souvent. Moi, je dis souvent que les dessinateurs, c'est des enfants qui n'ont jamais arrêté de dessiner parce qu'en fait, à un moment donné, ce n'est que ça, ce n'est que du plaisir et ce n'est que ce rapport au monde. Ou à un moment donné, on a envie de donner quelque chose de soi aux autres. C'est tout. C'est juste cet acte-là, la création.
Quelle belle conclusion pour ce podcast. Vous dites qu'il y a un temps pour tout. Il est 15h03, on est le 31 mars et ça va être l'heure d'aller récupérer nos enfants. Lola, on a la même contrainte, 16h20, on doit y être, bien un temps pour tout. Donc c'est le temps de se dire au revoir. J'ai adoré cet épisode d'Apostrophe.
Merci Benjamin.
Enfin,
merci.
Le podcast des maternelles. Le temps de vous dire, Antoine, on recommande vous, évidemment tous les Mortels Adèle. On en a beaucoup parlé. J'aurais bien aimé qu'on parle aussi de Gadou, votre nouvelle collection. Là, pour les plus petits, Gadou à Paris. Gadou à Tokyo.
À Tokyo bientôt, à New York bientôt, à Londres.
À Londres,
il est passé par Londres.
Donc là, n'hésitez pas à l'offrir à vos enfants, les tout petits. Lola Séchant, je pense que tout le monde a compris que j'avais beaucoup aimé. Tout le monde devrait rester tranquille, prenne un ruisseau, écouter chez Actes Sud. Le mien ressemble plus à rien, donc je pense que je vais me l'offrir. C'est comme un enfant là. Non. Ça me fait
plaisir. Je vais aller réclamer Actes Sud, j'en ai plus.
Dorothée Barba, donnez-nous le livre qui vous a marqué.
Le livre qui m'a marqué, c'est La belle l'espoir du prince de Motordu, de Pef. Vous vous rappelez de ce bouquin? C'était. Un type qui se balade en toiture et qui habite dans un chapeau. En fait, c'est le moment où tu et le dessin de Pef qui accompagne.
Je crois qu'elle fait
un AVC. Rien que d'y penser, j'ai des petits frissons. C'est ce moment où tu découvres que la langue, ça peut être un jeu, que les mots, tu as le droit de t'amuser avec. Et il y a une poésie folle dans ce livre. Et j'ai vraiment, mon exemplaire, je l'ai toujours. Il est vraiment très très abîmé. C'est la découverte, ouais, de la folie créatrice et libératrice du langage et des mots.
C'est lui qui avait fait aussi Rendez-moi mes poux, ou pas?
Rendez-moi mes poux.
C'était incroyable ça.
Pef. Moi je l'ai interviewé, Pef, sur un France Inter. Je crois que c'est l'interview qui m'a le plus impressionné au monde.
Ah, c'est vrai?
Il est là pour de vrai, quoi. En chair et en os.
Tu comprenais ses réponses.
Rendez-moi mes poux, c'est de Pierre-Élie Ferrier.
Oui, c'est là, c'est lui.
Ouais, c'est lui.
Ah,
ouais,
bien. Un petit garçon qui...
On peut plus arrêter quand on parle
Oui, c'est un petit garçon qui a des poux et qui refuse qu'on l'enlève.
Voilà, et en fait, il les élève. Il les garde à côté de ses cheveux, il fait une piscine municipale dans sa baignoire.
Et en fait, on a conseillé plein de livres et il y a un livre qu'on n'a pas conseillé, Benjamin, c'est le vôtre.
Non,
et je trouve ça sympa quand même, parce que
mignon.
Moi, je l'ai lu et je trouve ça super de sensibiliser les enfants à la question de la citoyenneté, de la politique et du rôle qu'ils peuvent jouer dans ce monde, même en étant des enfants.
Wow, ça, c'est hyper gentil.
Ça s'appelle Le Palais de Paul.
Le Palais
de Paul.
C'est chez Flammarion. Non, mais vous êtes formidable.
C'est super, moi j'adore.
Il
parce
est
qu'il...
humble, votre présentateur, mais c'est
vous, vous êtes incroyable. Lola, j'en ai un pour vous. Je vous l'offrirai. Parce que les deux l'ont lu, sinon. Du coup, je suis perturbée. Merci beaucoup, Dorothée Barba, pour
merci
ça et pour
Benjamin.
Le reste. On vous écoute sur France Inter, 15h en podcast. Et puis le matin à 6h50.
Voilà, 15h le samedi et la semaine 6h50.
Et vous levez
ça
tôt.
Ça fait tôt, hein.
Ouais.
Bah oui, c'est l'enfer.
Et sinon, sous ses fenêtres, il paraît que vous pouvez l'entendre chanter.
Merci à tous les trois. À bientôt,
merci.
Tout le monde.
Merci.